le 18 mai 1947, lors du premier congrès départemental de l'association Rhin et Danube, les anciens de la première armée accueillent à Chaumont le général de Lattre, leur chef.
Il serait singulièrement fou de désespérer. Et quand on voit des centaines de garçons comme vous êtes, qui rappellent tant de souvenirs, tant de domination de l'impossible, tant d'héroïsme, tant de générosité, tant d'amitié, tant d'union, tant d'amour de la France, tant de confiance quand même, tant de victoires miraculeuses. Mais voyons, qui serait fou maintenant de se lancer dans le désespoir? Alors, ayez donc confiance en vous-même. Et quand vous avez par moments des instants de désespérance, rappelez-vous donc ce que vous avez fait. Jamais vous ne trouverez demain des choses plus dures que celles que vous avez dominées. Alors, ceci m'amène pour finir à vous donner ce conseil. Gardez vos fiertés. Soyez fiers de vous-même. Répandez la fierté autour de vous. Aidez vos petits camarades à retrouver tout ce qu'il y a de fier, de sain, de bon, de généreux et de droit dans leur tempérament. Aidez-les à se décortiquer de cette espèce d'écorce qui est sans valeur et qui n'est pas profonde. Mais dans tout ce que vous faites, soyez unis. Soyez dans l'esprit Rhin et Danube, qui est avant tout un esprit d'amitié, d'entraide, de générosité et par conséquent d'union. Et puis, quoi qu'il arrive, rappelez-vous nos disciplines. Quoi qu'il arrive, soyez des hommes d'or. Quoi qu'il arrive, partout où vous passez, rappelez-vous l'ordre de la première armée française. Rappelez-vous la discipline. Rappelez-vous la loyauté. Rappelez-vous le loyalisme. Rappelez-vous que vous êtes des soldats de la République française, des soldats beaux, fiers, nobles, grands, dignes de la France.
Invité en octobre à visiter les armées d'Amérique latine, de Lattre sera reçu par les chefs d'État au titre d'ambassadeur extraordinaire de la République française. En Argentine, le général est entouré par une population enthousiaste.
À l'heure où je m'apprête à quitter votre magnifique pays, après un inoubliable séjour, je tiens à vous dire tout ce que mon cœur et ma pensée éprouvent d'émerveillement et d'émotion. La façon à la fois si aimable et si chaleureuse avec laquelle m'ont reçu leurs excellences, le général Perón, président de la nation argentine, et Madame Perón, les membres de votre gouvernement, vos grands chefs militaires et les hautes personnalités de votre pays m'a profondément touché. Et pour toujours, j'en conserverai une fidèle reconnaissance.
Au Chili, de Lattre s'efforce de resserrer les relations amicales que la guerre avait relâchées.
C'est pour moi une grande minute que celle où je peux m'adresser directement au peuple chilien par la voix des ondes. Je tiens en effet à lui dire l'émotion que je ressens depuis mon arrivée à Santiago. Certes, je savais tout l'honneur que me faisait le gouvernement de la République du Chili en m'invitant à être son hôte. J'y voyais la marque de sa bienveillance à l'égard d'un général français, ancien commandant en chef de la première armée française, véritable armée de la libération de ma patrie. J'y trouvais également l'expression de l'amitié que le Chili a toujours, de la façon la plus fidèle, manifestée à la France. Mais mon remerciement serait incomplet si je ne vous exprimais le message que, par ma bouche, le peuple de France adresse au peuple chilien. L'amitié qui unit nos deux pays n'est pas née, soyez-en sûrs, par l'effet d'un simple hasard. Si nous nous comprenons si bien, c'est parce que nos deux peuples sont frères et parce qu'ils sentent en eux l'existence d'affinités incontestables. Frères nous sommes, puisque latins nous sommes nés, et latins nous demeurerons. La latinité, ce n'est pas un mot vide de sens, mais bien une réalité de chair, de sang et d'esprit.
À Montevideo, Delattre reçoit les représentants de la presse uruguayenne et leur fait part de sa satisfaction.
Vu combien ici, dans l'armée de l'Uruguay, vous cultiviez avec méthode et avec des résultats remarquables tout ce qui est discipline, or, ce que les mamans appellent les vertus de rangement. Et d'ailleurs, j'ai vu avec quel soin aussi l'esprit de famille est maintenu, car en ouvrant toutes les cases, j'ai vu la photographie du papa et de la maman, toujours, dans lesquelles les garçons reportent leurs yeux quand ils ouvrent leurs petites affaires, qu'ils vont chercher leur linge. Voilà maman qui leur dit, c'est pas très bien rangé, il faut ranger mieux. Et le papa qui leur dit, ben pas non. Puisque nous avons parlé de la jeunesse et que je vous ai apporté le message de la jeunesse de France, laissez-moi porter vers la jeunesse de l'Uruguay le message de cette jeunesse française. Et levez mon verre à votre belle jeunesse, et en levant mon verre à la jeunesse de votre pays, je lève mon verre à l'avenir magnifique de l'Uruguay. À votre santé, monsieur.
Quatre mois après sa visite, Delattre fait devant les ambassadeurs des pays d'Amérique du Sud et la population de Boulogne une conférence sur le général argentin San Martin, libérateur du Pérou et du Chili, à l'occasion de son centenaire.
Voici quatre mois au terme de l'une des plus merveilleuses étapes de mon voyage en Amérique du Sud. Et à la veille de prendre congé de la nation argentine qui venait de me réserver un inoubliable accueil, je m'arrêtais à Mendoza pour rendre hommage à la grande mémoire du général José de San Martín. À l'endroit même où, 130 ans plus tôt, commençait l'épopée de sa prestigieuse armée des Andes. Dans le cadre incomparable de la cordillère, digne du héros, en qui trois peuples saluent le père de leur liberté, la piété et la reconnaissance argentine ont élevé le plus beau monument par lequel un peuple puisse honorer ses fils. Le long des escaliers imposants qui gravissent les flancs du mont de la gloire, les troupes d'un régiment de montagne, 3000 hommes, revêtus de leur tenue blanche, m'accueillaient en chantant avec une ferveur poignante les couplets en français de notre Marseillaise. Ces mêmes couplets, bien communs de tous les hommes libres. Combien de fois San Martín ne les avait-il lui-même entendus et sans doute chantés, et en me recueillant tout à l'heure au pied de sa statue, je pensais qu'il remplissait sans doute Boulogne il y a exactement un siècle, à l'heure où celui qui avait fait de l'Argentine, du Chili et du Pérou des nations fières et indépendantes y arrivait pour s'y préparer à mourir. Et toute l'émotion des souvenirs remontait en moi, car ici, comme à Mendoza, et dans votre cathédrale, comme en celle de Buenos Aires, revit vraiment la présence de l'homme que ses vertus placent parmi les héros les plus purs de l'histoire du monde latin.
La situation militaire devient de jour en jour plus alarmante dans le sud-est asiatique. Hanoï est en état de siège. À l'hôtel Matignon, on cherche un nouveau chef pour l'Indochine. Pressenti, Delattre estime que le devoir lui interdit de refuser. Nommé le 6 décembre, il s'envole pour Saïgon 8 jours plus tard, avec les pleins pouvoirs civils et militaires.
Le gouvernement de la République française m'a confié la charge de haut commissaire et commandant en chef en Indochine. Haut commissaire, je poursuivrai la politique que la France a consacrée par les récents accords. Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour que l'indépendance reconnue aux États associés du Vietnam, du Cambodge et du Laos soit une réalité solide et durable. J'espère que notre résolution et notre loyauté seront génératrices de paix. D'une paix que nous souhaitons ardemment voir régner dans les rapports de l'Indochine avec tous les États voisins. Comme soldat, je suis fier de me retrouver à la tête de l'armée française qui se bat. Dans ses rangs, la jeunesse la plus généreuse de l'Union française reste fidèle à nos plus hautes traditions militaires. Avec cette armée, avec les jeunes armées des États associés auxquels je donnerai le meilleur de moi-même, je m'efforcerai de rendre à l'Indochine la sécurité et la prospérité. Pour cette difficile mission, le gouvernement a bien voulu m'accorder sa confiance. J'espère que j'aurai également l'appui de la confiance du pays. C'est pour lui que j'ai accepté sans hésitation ni condition ce nouveau devoir. Mais ce n'est pas que le devoir d'un homme, c'est celui de la nation. Je suis sûr qu'elle y fera face, comme je ferai tout pour y faire face.
Avec l'arrivée de Delattre en Indochine, le vent n'est plus aux abandons ni aux renoncements. Chacun reprend confiance. À l'occasion de la distribution des prix au lycée de Chasseloup-Loba de Saïgon, il lance le 11 juillet un pressant appel à la jeunesse vietnamienne qu'il écoute avec d'autant plus de respect que le général vient de donner son fils unique, Bernard, à la cause dont il se fait le vibrant défenseur.
Une jeunesse comme la vôtre est prise de liberté, regrette sans doute elle-même quelquefois de n'arriver à l'âge d'homme que pour se trouver embarquée dans une grande aventure qu'elle n'a pas choisie. Au lieu de pouvoir fabriquer et goûter à loisir les mille petits problèmes personnels et inoffensifs dans lesquels peut se complaire en temps de paix l'adolescent. Avec de tels sentiments et quelques intérêts bien compris, l'on devient un attentif. On profite abondamment, en parasite, de l'ordre maintenu par le gouvernement légitime et l'armée de l'Union française. Et on fait pénitence pour tout ce confort matériel et intellectuel que l'on ne voudrait pas perdre, en manifestant une réprobation de bon aloi envers les autorités protectrices et une vertueuse sympathie en faveur des rebelles. Par un mirage étrange, on prétend voir en eux la résistance, comme si le parti de l'étranger et de l'oppression avait le droit d'usurper ce titre réservé aux forces véritablement nationales qui incarnent la volonté de vivre d'un peuple libre. Au nom des soldats de la France, au nom de l'avenir du Vietnam, au nom de l'idéal dont la jeunesse est dépositaire, au nom de la jeunesse même de ce pays qui se bat, devant ces petits calculs et cette honorable lâcheté, je dis à de tels gens, et vous leur direz avec moi, non, c'est la guerre. Voyez des hommes. Voyez des hommes, c'est-à-dire, si vous êtes communiste, rejoignez le Viet Minh. Il y a là-bas des individus qui se battent bien pour une cause mauvaise. Mais si vous êtes des patriotes, combattez pour votre patrie, car cette guerre est la vôtre. Elle ne concerne plus la France que dans la limite de ses promesses envers le Vietnam et de la part qu'elle doit prendre à la défense de l'univers libre. Dans l'entreprise aussi désintéressée, il n'y en avait pas eu pour la France depuis les croisades. Cette guerre, que vous l'ayez voulu ou non, c'est la guerre du Vietnam pour le Vietnam, et la France ne la fera pour vous que si vous la faites avec elle. Aussi, jeune Vietnamien, qui allez quitter le lycée, ne vous perdez derrière aucun des prétextes que vous inspireront peut-être l'égoïsme familial et la propagande ennemie. Soyez à la hauteur de l'indépendance de votre pays et des lourdes responsabilités qui en rejaillissent sur vous. Car l'indépendance ne résout pas les problèmes, elle les pose à nouveau. Elle en pose de nouveau et elle oblige à les résoudre. L'indépendance, qu'est-ce sinon ce qui permet à une nation de choisir librement entre la liberté et la servitude, ce qui rend les citoyens responsables du destin de leur pays. Ne tombons pas cependant d'un extrême à l'autre. Si l'indépendance ne peut pas tout, ne croyez pas, certes, qu'elle ne soit rien. Certains prétendent que le Vietnam ne peut être indépendant parce qu'il fait partie de l'Union française. Bonsoir. Dans l'univers, et plus particulièrement dans le monde d'aujourd'hui, il ne peut y avoir de nation absolument indépendante. Il y a seulement des interdépendances fécondes et des dépendances funestes. Sans l'appartenance à l'Union française, le Vietnam, malgré son fier passé, ne serait-il pas aujourd'hui un satellite de la Chine? Et n'est-ce pas la preuve que la solidarité de l'Union française est une force de liberté? D'autres parmi vous déclarent que le Vietnam ne peut être indépendant à cause de la présence de l'armée française. Et à cause de cela même, ils s'abstiennent de s'engager dans l'armée vietnamienne. Ils vont ainsi à l'encontre du but cherché. Car l'armée nationale est l'expression même de l'indépendance du Vietnam. Et le Vietnam sera d'autant plus indépendant qu'il aura une armée plus nombreuse et, je ne cesse de le dire, une armée encadrée par des officiers vietnamiens qui relèvera progressivement l'armée française des tâches primordiales que celle-ci assume aujourd'hui.
Venu à Paris rendre compte de 6 mois de mission, le général Delattre, qui s'était forcé d'imposer en Indochine l'image de la grandeur et de l'héroïsme de la France, sait aussi faire preuve de sensibilité et de générosité.
Alors, voyons voir un petit peu notre courrier, là. Qu'est-ce que c'est que Monsieur Cher? On me prie de porter à votre connaissance le cas suivant. Madame Anne Hofsess est atteinte d'un cancer. Là, pauvre femme. Elle sait qu'elle va mourir, mais lutte désespérément contre la mort dans l'espoir de revoir encore son fils. Incorporée en 46, elle se trouve en Indochine depuis 49. En septembre, mais au dire du médecin, il y a peu de chances qu'elle puisse vivre. Oh, je voudrais faire quelque chose pour ce pauvre femme. Je reviens de quelques semaines le retour. Hein? Voyons voir si on peut faire ça. Hein?
C'est Jean-Kenny, mais on peut sûrement...
Oui, plutôt je n'aurais connu le pauvre femme qu'elle nous rentre. Tout de même. Je reçois là une lettre de Saigon de Gouyan. Qui s'excuse que il dit please accept my apologies for not being at the airport when you left last Saturday. I know that it will be a great comfort for your wife to have you again with her. With the correspondence here will be Asim Jenkins. Oh, c'est très intéressant. Just before you left, for my part, I am hoping that it will be the success that I know you so earnestly desire and that it succeeds in winning the cooperation of all stratas of the Vietnamese community. Ben, c'est pas mal que Jenkins m'écrive ce petit mot. Il faudra le faire traduire parce que moi...
Non, vous comprenez tout de suite.
Je le comprends très mal.
Non.
Si, mon vieux Dano, vous me couvrez de compliments. Si vous continuez à être insincère comme ça, je ne vous aimerai plus. Alors, il faut me le faire traduire et puis il faudra lui répondre. Puisque c'est une lettre, il fait ses excuses, mais il faut me faire traduire cette lettre de Jenkins, me la mettre là et me préparer une réponse pour ce soir. Bon, alors ceci étant, est-ce qu'on peut entendre la voix de son maître?
Soldat exceptionnel, Delattre est un ambassadeur efficace. En septembre, il part pour les États-Unis plaider la cause française.
Je viens ici en soldat pour expliquer à mes camarades soldats d'Amérique ce que c'est que le problème de l'Indochine, quelles sont nos difficultés. Et plein de confiance dans la manière dont ils comprendront ce que je viens leur expliquer et dans les conséquences logiques qu'ils sauront en tirer avec leur esprit d'aide, d'aide si amicale pour la France dont ils ont donné toujours les preuves les plus indiscutables et les plus généreuses. Et je suis content que le soleil vienne ce matin donner un bon départ à cette visite. Et je dis tout de suite merci à l'Amérique, merci à mes camarades des armées américaines.
Au cours d'un débat télévisé, au retentissement considérable, il tente de faire admettre à l'opinion américaine que le combat mené en Asie par notre pays contre le communisme est aussi celui du monde libre.
You have very well understood that the war we were fighting was a fighting against communism. That war and the war of Korea was the same war. But soldiers, officers is good, but equipment is also necessary. And that is one of the reasons why I came to the United States to ask equipment for them. And now I think I can come back able to tell to them the assurance that inshallah, very quickly, a great increasing of their equipment. And I thank the military and civilian leaders of the United States who were receiving me and hearing me so well, that I can come back, giving to the Vietnamese people that absolute assurance.
Au cours d'un déjeuner de la presse anglo-saxonne, le haut commissaire en Indochine devait exprimer son inquiétude de voir l'opinion française si mal informée du problème indochinois.
La sale guerre, la guerre inconnue, la guerre méconnue d'Indochine, celle que mon pays a traînée pendant des années comme une servitude, qui oserait dire aujourd'hui qu'elle ne s'inscrit pas totalement au crédit moral de la France? Qui maintenant, dans le monde libre, pourrait n'être pas reconnaissant à la France d'avoir, malgré l'incompréhension et l'ingratitude, obscurément, patiemment, progressivement, constructivement, accompli sa tâche? Tâche n'était pas d'abandonner, mais vraiment de donner. Elle n'était pas d'abandonner l'indépendance comme on abandonne un poste. Elle n'était pas sous le prétexte d'abandonner tous les pouvoirs, d'abandonner en fait trois peuples à la servitude. La tâche de la France était de donner l'indépendance comme on donne la vie, en assumant la charge de la nourrir, de la faire grandir, jusqu'à ce qu'elle ait pris son beau poids, jusqu'à ce qu'elle ait pu durcir tous ses os. La France, messieurs, voilà des années qu'elle nourrit les peuples d'Indochine de sa substance et de son sang. Et comme des enfants qui coûtent de plus en plus cher à mesure qu'ils grandissent, chaque année, les sacrifices ont été plus lourds. Mais aujourd'hui, l'indépendance est un fait. La loyauté de la France est un fait. Les gouvernements du Laos, du Cambodge et du Vietnam sont des faits. Les jeunes armées de ces trois pays sont des faits. Le monde comprend que nous avons fait œuvre de vie et la France peut déjà s'appuyer sur les forces qu'elle a su animer et soutenir.
Appuyé sur la robuste canne qui ne le quitte guère, le roi Jean, comme l'ont surnommé avec affection ses soldats, est de retour sur le théâtre d'opération. Mais il est en sursis, à l'image de l'Indochine. Pourtant, à Hanoï, le 23 octobre, c'est un chef en pleine possession de ses moyens qui est venu fixer dans les esprits et dans les cœurs l'image d'une France puissante et généreuse.
C'est ici aujourd'hui, malgré la pluie, dans votre fière et vieille capitale du Nord, là où bat vraiment le cœur de la nation, dans cette ville où, dit la légende, fut armé d'une épée miraculeuse le bras de celui qui chassa les hordes venues du Nord. C'est ici, à Hanoï, que le commandant en chef des armées de France et du Vietnam devait venir recueillir la consécration d'une complète compréhension, la promesse de nouveaux enrôlements, l'assurance de cette cristallisation des volontés que tout à l'heure on évoquait. Dans un œil hier menacé, dans un œil aujourd'hui sauvé et épanoui à l'espérance au sein d'un delta complètement libéré. Car partout, sous la conduite de chefs magnifiques, au premier rang desquels je veux ici saluer votre cher général de Linares, nos forces ont chassé l'ennemi qui tentait de s'y incruster. Nous l'avons obligé à chercher refuge dans nos pays, mettant vos foyers et vos greniers à l'abri des razzias qui voulaient opérer. Et dans ces zones enfin rendues à la vie, le gouvernement de Sa Majesté Baodai vous apporte, après la paix des armes, la grande paix des cœurs. Dans la sécurité qui renaît, c'est la haine qui fait place à la joie. Ce sont les marchés qui revivent, les plaies qu'on pense enfin, une jeunesse qui retrouve le sentier des études, les ruines qu'on relève. Après la grande peur des nuits rouges, de la résurrection d'un peuple qu'on avait voulu asservir à des intérêts qui lui sont totalement étrangers. Un cri d'espérance, un cri de liberté s'élève. Et cette clameur est, pour le soldat que je suis, plus qu'un chant triomphal.
À l'encontre des politiciens qui voulaient à la fois donner et retenir, De Lattre est en Indochine pour accomplir l'indépendance, non pour la limiter. Mais l'énergie qu'il déploie pour forcer le destin ne fera que reculer l'échéance.
Le Cambodge, le Laos et le Vietnam sont en marche vers un avenir nouveau. C'est pourtant tout leur patrimoine, le plus ancien comme le plus récent, que ces trois pays défendent contre cette forme moderne des grandes invasions barbares, le communisme. Peuple de culture complexe, établi d'abord à l'intersection des influences de la Chine et de l'Inde, devenu ensuite, par le fait de la colonisation ou du protectorat, un lieu de rencontre de l'Orient et de l'Occident, les trois États associés d'Indochine luttent aujourd'hui pour garder leur âme, en même temps que pour sauvegarder leur indépendance toute neuve. La France, renonçant aux droits, mais gardant les devoirs, continue de répandre son sang et ses ressources pour garantir cette indépendance, pour l'aider à grandir. La lumière des causes les plus pures, les plus nécessaires, éclaire désormais nos sacrifices et nos efforts d'une signification exaltante. C'est l'honneur de la France. C'est la vie de trois peuples amis. C'est la défense d'une partie vitale du monde libre.
C'est sur un net redressement de la situation militaire que le commandant en chef quitte l'Indochine. Luttant maintenant contre le mal qui le ronge depuis des mois, affaibli par l'intense activité déployée depuis un an, miné dans sa volonté de vivre après la mort de son fils unique, tombé au champ d'honneur, le général
De Lattre de Tassu